Je vous invite de nouveau à la prière. Notre Père, nous voulons effectivement recevoir ta présence encore et encore et être attentifs à ta présence et à ta voix. Merci pour ta parole par laquelle tu nous parles. Aide-nous à entendre ce que tu souhaites nous communiquer ce matin et que notre vie soit complètement entre tes mains, abandonné entre tes mains. Au nom de Jésus, amen. Alors pendant l'été, une bonne partie des Français fait du tourisme. Est-ce que vous connaissez le site ou l'application TripAdvisor ? Alors, je ne le prononce peut-être pas avec le bon accent. C'est vrai que quand j'entends parler autour de moi, c'est TripAdvisor, mais il paraît que c'est TripAdvisor. Mais bon, je dirais TripAdvisor, c'est plus facile pour moi, qui suis très mauvais en anglais. Il y a quelques années, lorsqu'on visitait une région et que l'on cherchait les meilleurs endroits à visiter, eh bien, les meilleurs endroits pour passer la nuit ou pour se restaurer, eh bien, on achetait des guides touristiques, un peu comme le guide du routard. Et on l'achète certainement encore. Dans ces guides, il y a souvent des classements. Où peut-on manger pour pas cher? Où peut-on manger avec le meilleur rapport qualité-prix? Où manger si l'on veut un bon dîner, peu importe le prix, etc. Alors ces guides, il me semble, ils sont moins utilisés au profit des sites internet du type TripAdvisor. Ces sites permettent aux clients de noter les hôtels et les restaurants sur une échelle de 1 à 5. 1 à 5 étoiles. Et on peut donner son avis. Donc lorsqu'un jeune touriste visite une ville et qu'il n'y reste qu'une ou deux journées, il veut aller droit au but. Il cherche le meilleur endroit à visiter ou le meilleur endroit où manger. Il va donc regarder sur Internet. Il y a beaucoup d'autres sites qui font la même chose. Hein. Google aussi permet la notation avec des étoiles. Voilà, il y a pas mal de sites maintenant qui le font. Donc le visiteur jette un coup d'œil sur Internet. Il jette éventuellement un coup d'œil sur les avis qui sont donnés par de simples internautes comme vous et moi. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cela? C'est parce que ce matin, je vais parler de jugement et d'esprit critique. Ces sites où l'on donne son avis sont très fréquentés et les gens participent beaucoup. Actuellement, il y a une forte exigence chez le consommateur, le client est roi, et donc son avis, les avis des clients peuvent même offrir le succès à une enseigne ou bien même faire couler une enseigne. Alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être un... Excusez-moi, je fais une petite pause, il y a peut-être un problème de pile à avoir ou de réglage. Merci, c'est bon. Voilà, donc aujourd'hui, chacun peut donner son avis sur tous les endroits qu'il a fréquentés. Cela induit, je pense, une mentalité de consommateur exigeant et un esprit critique peut-être parfois surdimensionné. On se permet de tout critiquer derrière un écran. Et parfois, les gens ne sont pas très tendres. Et est-ce que vous savez que les églises évangéliques sont répertoriées sur Google. Et donc toute personne qui utilise Internet peut noter les églises en mettant 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles, en laissant aussi un avis. Et donc lorsque vous tapez « Église évangélique Eure-et-Loir » sur un moteur de recherche, vous verrez apparaître une liste d'églises, dont la nôtre. Et si vous tapez précisément « Église protestante Gobert », vous tomberez à coup sûr sur notre site web, car il y a une seule église protestante à Gobert. Notre église a fait même l'objet de 8 commentaires, et donc il y a des gens qui ont mis des étoiles. Et donc notre moyenne, c'est 4,3 étoiles sur 5, ce qui n'est pas mal du tout. Alors, une question que je me pose, enfin plusieurs questions que je me pose, sur quels critères noter une église? Qu'est-ce qu'une église 5 étoiles? Une église avec une louange de qualité professionnelle, avec son et lumière? Une église confortable, avec des fauteuils, avec accoudoirs? Une église avec des prédicateurs qui savent bien distraire l'assemblée? Ou bien l'église 5 étoiles serait-elle une église où les attentes de chacun seraient satisfaites? Et peut-être une interrogation, peut-être plus importante, et pour moi plus importante, l'église 5 étoiles, n'est-ce pas une église où l'on enseigne fidèlement l'évangile? Je ne sais pas si c'est ce critère qui est le plus mis en avant dans les avis que l'on consulte sur Internet. Au-delà de nos attentes envers l'Église, nous avons peut-être des attentes aussi envers les chrétiens, envers nos amis, envers notre famille, notre époux, notre épouse ou nos enfants. Que devrions-nous attendre ou exiger les uns des autres? Jésus nous donne un enseignement à ce sujet dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 37 à 42. Luc 6, 37 à 42. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre manteau, dans votre vêtement, une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Dans cet enseignement de Jésus, j'aimerais relever deux points qui me semblent importants, deux points principaux. Premièrement, nous sommes appelés à ne pas juger ni condamner. Ne pas juger ni condamner. Verset 37, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Cette parole m'a un peu intrigué. Lorsque Jésus dit « vous ne serez pas jugés », à quoi fait-il référence? Fait-il référence aux gens qui nous entourent? Si l'on ne juge pas notre entourage, alors eux-mêmes ne vont pas nous juger? Ou fait-il référence au jugement de Dieu qui aura lieu à la fin des temps? Dans le reste de la Bible, lorsqu'il est question du jugement de Dieu, il est dit que personne n'y échappera. Hébreux 9, chapitre 9, verset 37, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ou encore 2 Corinthiens 5, verset 10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Notre texte parle-t-il du jugement de la part des hommes ou du jugement de la part de Dieu? Il me semble que les paroles de Jésus font tout de même référence au jugement dernier, au jugement de Dieu. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit ceci, « Pourquoi juges-tu ton frère ?» Ou toi, « Pourquoi méprises-tu ton frère ?» Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal du Christ. Donc ici, l'apôtre Paul parle du jugement que l'on a, nous, par rapport à nos propres entourages, et il parle aussi du jugement de Dieu, le tribunal de Christ, où nous comparaîtrons tous. Il fait donc bien un lien entre notre jugement par rapport aux autres et le tribunal du Christ à la fin des temps. Il y a donc un lien entre notre manière de nous comporter avec notre prochain et le tribunal de Christ. Et lorsque Jésus dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés », il veut certainement dire que lors du jugement, nous n'aurons rien à craindre. C'est comme si nous ne serons pas jugés. Il n'y aura aucune condamnation. Il n'y aura aucune condamnation pour ceux qui ne jugent pas et ceux qui ne condamnent pas les autres. C'est tout de même quand même difficile de ne pas juger les autres. Il est facile de voir ce qui ne va pas. Et je suis moi-même quelqu'un de très exigeant quand je vois que les choses ne sont pas faites comme je l'aurais fait, ou lorsque les gens ne se comportent pas comme je l'aurais aimé. Je suis exigeant envers ma femme et mes enfants, surtout à la fin d'une fatigante journée, bien chaude, trop chaude. J'ai aussi des attentes envers les chrétiens, et je ne pense pas que ce soit mauvais d'avoir des attentes. Mais on tombe facilement dans le jugement. Jésus nous met en garde contre cette attitude qui juge et qui condamne l'autre. Dieu seul est juge, et nous ne devrions pas prendre sa place. Au lieu de critiquer, Jésus nous invite à l'humilité et même au pardon si quelqu'un nous a fait du mal. Le pardon est difficile et ce qui peut nous aider, c'est de comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à notre place par amour pour nous. Imaginez qu'un chauffeur casse le portail de votre maison. Vous seriez en droit de lui exiger au moins le prix de la réparation ou un remplacement à l'identique. Et ce sera bien sûr à lui de payer. Pour notre part, nous n'avons pas cassé un portail, mais notre relation avec Dieu. Et Dieu serait en droit de nous demander de payer pour réparer cette faute et même toutes nos autres fautes. Mais au lieu de cela, il a payé le prix à notre place. Notre attitude désobéissante lui a coûté la vie. Il est mort sur la croix à notre place. Et si nous regardons la croix, si nous nous rendons compte que nous avons été pardonnés de nos fautes, alors nous devrions faire de même avec notre prochain et même nos ennemis. Pardonner à quelqu'un, c'est déclarer qu'il ne nous doit plus rien. Jésus parle du pardon d'une manière un peu particulière. Il dit « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Moi, j'aurais tendance à penser qu'il aurait dû dire « Pardonnez comme vous avez été pardonnés ». Mais Jésus place le pardon de l'autre avant son propre pardon. « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Comment comprendre cela ? En fait, dans notre passage, Jésus veut nous enseigner que Dieu nous traitera de la même manière dont nous aurons traité les autres. Il nous révèle ici comment est sa justice. Si nous avons été durs avec notre prochain, alors Dieu sera dur envers nous. Si nous avons été généreux, alors Dieu sera généreux envers nous. Finalement, c'est comme si nous nous jugeons nous-mêmes. Au moment du jugement, Dieu utilisera nos propres critères. Nous ne pourrons rien reprocher à Dieu dans sa manière de juger, car il nous jugera exactement comme nous l'avons fait. C'est une raison de plus pour ne pas juger, pour ne pas condamner, mais au contraire, pour pardonner et pour donner généreusement afin de recevoir généreusement. Cet enseignement peut nous gêner un peu en tant que protestants. Pour nous, la grâce est première. Mais dans son enseignement, et en particulier dans le sermon sur la montagne, Jésus accorde beaucoup d'importance aux œuvres. Je trouve qu'il y a pas mal de liens entre le sermon sur la montagne et un autre enseignement de la Bible, celui de la lettre de Jacques. Dans cette lettre, l'auteur rappelle que la foi sans les œuvres, que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Celui qui a la foi est reconnaissable par les œuvres qui découlent de la foi. Et Jésus dira dans son sermon, c'est même l'un des versets juste après, on reconnaît un arbre à ses fruits. Autrement dit, on reconnaît un enfant de Dieu par son comportement. C'est aussi dans la lettre de Jacques où il est dit « Le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion, mais la compassion triomphe du jugement. C'est une autre manière de dire cette parole de Jésus, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Oui, Dieu nous fait grâce et cette grâce nous change. Sa grâce nous permet d'agir selon sa volonté et non pas selon notre volonté. Et lorsque sa grâce nous touche, nous devenons aussi une source de grâce pour notre prochain, en ne jugeant pas, en ne condamnant pas et en pardonnant. Le deuxième enseignement de Jésus est raconté sous forme de parabole. Enlève d'abord la poutre. Enlevez d'abord la poutre. Mettons-nous d'abord en règle avec Dieu avant d'exiger quoi que ce soit chez les autres. Jésus nous invite à nous mettre en règle devant Dieu avant de l'exiger chez les autres. Il utilise l'image de la paille et de la poutre, une image bien connue. Au lieu de dire à notre voisin qu'il devrait enlever la paille qui se trouve dans son œil, préoccupons-nous d'abord de la poutre qui se trouve dans notre œil. C'est pour cela que Jésus parle d'aveugle aussi dans ce passage. Si j'ai une poutre dans mon œil, je serai comme un aveugle, je ne verrai pas clair pour diriger quoi que ce soit ou qui que ce soit. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, nous dit Jésus. Il nous apprend que lorsque nous avons des reproches à faire à quelqu'un, que ce soit à haute voix ou même dans la pensée, n'oublions pas que nous avons d'abord des choses à régler dans notre propre vie. Comment attendre des autres la perfection si nous-mêmes nous sommes imparfaits ? Et comment attendre d'une église qu'elle soit parfaite si elle est composée d'une assemblée avec un pasteur autant imparfait que le reste des membres ? Cela dit, il ne faut pas faire dire à cette parabole ce qu'elle ne dit pas. Et je trouve qu'il y a souvent des confusions. Jésus ne dit pas qu'il faut fermer les yeux sur les choses qui ne vont pas, sous prétexte que mon prochain n'a qu'une paille dans mon œil et moi j'ai une poutre. Jésus ne dit pas que nous devrions nous taire lorsque nous voyons des péchés autour de nous, dans l'assemblée. Jésus ne nous demande pas de jamais reprendre un frère ou une sœur dans la foi. Lisons bien cette parabole, et en particulier la fin du verset 42. « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Jésus nous invite à nous préoccuper d'abord de la poutre qui se trouve dans notre œil. Et lorsque nous verrons clair, nous pourrons retirer la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Mais que signifie voir clair ? Il me semble que celui qui voit clair, c'est celui qui est au clair avec Dieu. Celui qui a compris la grâce, qui l'a acceptée et qui est prêt à faire grâce lui aussi. Celui qui a compris le pardon, qui l'a accepté et qui est prêt à pardonner. Celui qui a compris l'œuvre d'humiliation de Jésus, qui a foi en lui et qui est prêt à faire preuve lui aussi d'humilité envers les autres. Celui qui est au clair avec Dieu fera preuve envers son prochain non pas de jugement, mais de bienveillance. En étant débarrassé de notre poutre, nous pourrons avoir la bonne attitude pour dire à notre frère ou notre sœur, « Tu as une paille dans ton œil, laisse-moi t'aider à l'enlever. » Nous sommes bien appelés à veiller les uns sur les autres, mais avec grâce et avec humilité. Si un frère ou une sœur commet un péché, je ne dois pas la juger, mais si je suis au clair avec Dieu, je peux l'exhorter à changer de comportement, tout en prenant conscience que je ne suis pas meilleur que lui. Il y a tout un discernement à avoir et surtout de la bienveillance. Pour conclure, j'aimerais encore parler de la grâce de Dieu et de sa justice. Dieu jugera chaque être humain et nous recevrons une condamnation si nous n'avons pas suivi son enseignement. Mais Jésus a accepté d'être condamné à notre place. Il nous donne la possibilité d'échapper à la sentence si nous acceptons sa mort à notre place. La justice de Dieu nous condamne et sa grâce nous permet d'être sauvés du jugement. Cela n'est pas une raison pour nous comporter comme bon nous semble, au contraire, puisque nous sommes sauvés, eh bien que notre vie soit à l'honneur, à la gloire de Dieu. Veillons aussi sur le comportement de notre prochain dans la foi, tout en ayant conscience que nous ne sommes pas meilleurs que lui. N'oublions pas que notre relation avec Jésus est plus qu'une religion. La religion ne blanchit que la surface. En tout cas, le fait de regarder que les œuvres ne blanchit que la surface, mais pas l'intérieur. Ce dont nous avons besoin en premier, ce n'est pas que l'on nous dise quoi changer, ce qu'il faut changer. Nous avons d'abord besoin d'un cœur en phase avec Dieu, d'avoir un cœur en phase avec Dieu. Et c'est de là que viendra le changement dans notre vie. Avant de décréter si mon prochain mérite 5 étoiles, regardons d'abord à nous-mêmes, que la parole de Dieu soit toujours au centre et que l'enseignement que nous recevons produise des beaux fruits dans notre vie et dans notre vie d'Église. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci de nous rappeler que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce pour échapper à ton jugement. Nous avons besoin de ton pardon. Et aide-nous à faire preuve de la même bienveillance envers notre prochain, en ne jugeant pas, en ne condamnant pas, mais en pardonnant, en exhortant notre prochain avec humilité, avec bienveillance et compassion. Merci parce que tu nous rappelles que nous ne sommes pas appelés avant tout à critiquer ou à exiger des autres, mais à simplement nous tenir devant toi et à nous remettre en question, à être clair avec toi. Merci parce que tu nous parles de jugement dans ta parole, mais tu nous offres le moyen d'y échapper. Et c'est une grâce, c'est un sujet de joie, c'est un sujet de louange, et nous voulons te louer pour ça. Et nous voulons que notre Église soit fidèle à l'Évangile que nous proclamons. Au nom de Jésus. Amen.